France Inter, le 18-20.
Et ce soir, dans Un jour dans le monde, la première escale nous emmène en Norvège avec cette question. Et si le pétrole restait dans le sol pour éviter la catastrophe et protéger l'environnement? La question a été au centre de la campagne électorale qui s'achève aujourd'hui. L'actu en série Brexit saison 2, des programmes comme Erasmus vont-ils résister au Brexit? Antoine Gignot nous raconte l'inquiétude qui était dans la rue ce week-end. Planète Média, c'est Alexandra Akoun, 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. Ce sera en Égypte. Et tout de suite, un chiffre, tiens, je le pose là. 26 millions de personnes dans le monde ont fui leur pays pour raisons climatiques l'an dernier. Et ce n'est que le début.
Fabienne Saint-Es, Un jour dans le monde.
Je suis enseignant à Saint-Martin et par la force des choses, je me retrouve là. Moi, j'ai ma compagne et les enfants, donc j'ai pas envie, on va dire, qu'il arrive quelque chose. J'ai envie qu'ils soient en sécurité quelque part, voilà. Moi, l'idéal, ce serait de rentrer à la métropole.
J'avais une vue sur la mer des Caraïbes, magnifique, une eau turquoise, des bateaux partout. Des cocotiers, et là, il n'y a plus rien, c'est un tas de ruines, c'est l'enfer sur Terre. On comprend que ça ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais repartir en métropole? Aujourd'hui, je ne sais pas du tout.
Rester, partir, à l'image de ces gens qu'on vient d'entendre, quand une ville ou une île entière sont dévastées, comment on fait? La migration climatique, ce n'est pas seulement une île qui coule et une petite foule de gens à reloger, ce sont des phénomènes climatiques qui bouleversent la démographie, la géopolitique, l'agriculture. Comment, par exemple, une ville comme la Nouvelle-Orléans, il n'y a pas si longtemps, qui perd un tiers de sa population. Quelles conséquences quand les sécheresses, plus violentes les unes que les autres, les inondations aussi, mettent des milliers de gens sur les routes? Comment on gère? Surtout quand on sait que tous ces phénomènes vont forcément s'accentuer. Y a-t-il des stratégies à inventer? Est-ce que les retours sont possibles? Bonsoir Corinne Lepage.
Bonsoir Fabienne Saint-Es et bonsoir à tous et à toutes.
Vous êtes avocate spécialiste d'environnement, bien sûr. Vous présidez le Rassemblement citoyen Cap 21. On aura dans un instant aussi au téléphone Dina Ionesco qui a coécrit avec François Gemen un livre très utile qui s'appelle La classe des migrations environnementales. Quand on entend Corinne Lepage, cette femme et cet homme à l'instant qui hésitent entre rester ou partir définitivement, on est effectivement au cœur du problème. Parfois le choix s'impose. Je citais 26 millions de réfugiés climatiques. J'ai un autre chiffre qui est encore plus terrible, 250 millions en 2050. Est-ce qu'on en a conscience de ça?
Je crois qu'on commence à comprendre ce qui est en train de nous arriver. Je ne pense pas que tout le monde ait parfaitement bien compris. Je suis toujours étonnée du caractère relativement incohérent d'un certain nombre de décisions qui vont les unes dans un sens et les autres exactement dans l'autre sens. Cette affaire des migrations climatiques, c'est peut-être ce qui va le mieux faire percevoir, en tout cas aux Européens, la gravité de la situation, parce que il y a eu l'année dernière tout ce qui était lié à la guerre en Syrie, qui était du reste pas totalement déconnecté des phénomènes climatiques au passage, mais enfin on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Là on se rend bien compte que des phénomènes comme celui qu'on a vu aux Antilles peuvent se développer dans de multiples pays. Je lisais par exemple que cette année la mousson a été d'un niveau absolument inconnu en Asie du Sud-Est.
Et l'Asie du Sud-Est ont un taux de réfugiés climatiques absolument
énorme.
Énorme.
Et à l'intérieur des pays et entre pays, parce qu'il y a les deux.
Mais vous l'avez évoqué d'ailleurs, vous parlez de la Syrie tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on se cache derrière les réfugiés de guerre, les réfugiés économiques, qu'on n'a pas tellement envie de voir qu'il y a plein d'entre-deux et que ces réfugiés climatiques sont précisément dans cet entre-deux-là.
Oui, et nous en sommes tous quelque part pour partie responsable de ces réfugiés climatiques-là, hein, puisque c'est nos émissions collectives qui créent cette situation. Alors je crois qu'en fait, on est très inquiet parce qu'on n'a pas les solutions, on n'a pas les logiciels, on n'a pas les nouveaux scénarios. On a voulu se battre contre des sujets qui n'en étaient pas, comme le climato-scepticisme, on a bien été obligés. Hein. Mmh. C'est quand même eux qui ont saboté tout à fait volontairement Copenhague en 2009. Bon, maintenant, il y a le climato-scepticisme à la sauce Trump, c'est-à-dire la position du directeur de l'IPA qui dit à la cantonade...
De l'Agence pour l'environnement.
L'Agence pour l'environnement, mais ne nous occupons pas des causes et des effets, ça n'a aucune importance, c'est pas le moment de parler du changement climatique. Mais bien entendu, enfin, c'est terrible. Donc je pense qu'au niveau de la population mondiale, il y a une vraie conscience qui se met en place et on voit sur le plan juste un mot.
Allez-y.
Sur le plan de la justice, il y a quelque chose de très nouveau qui se met en place, qui s'appelle la justice climatique. Mon mari Christian Huglot vient de finir un bouquin là-dessus, sur tous les procès dans le monde qui se mènent actuellement sur le sujet de la justice climatique et qui sont complètement nouveaux, parce que c'est des gens venus de nulle part qui vont agir contre un État pour lui dire « Attendez, vous ne faites pas ce qu'il faut pour nous protéger ». Et notamment aux États-Unis, au Massachusetts, où des gosses, 10 ans, ont intenté un procès, ont été déclarés recevables, considérant que l'État ne leur assurait pas à long terme une bonne vie.
Mais Corinne Lepage, une fois qu'on sait, lorsqu'on le prend conscience, est-ce qu'on doit imaginer des stratégies d'adaptation? Est-ce qu'on peut imaginer des stratégies d'adaptation, même des départs anticipés? Est-ce que tout cela est envisageable?
Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Bon, là, on est focalisé sur les Antilles, et c'est bien normal, puisque nous, Français, c'est la première fois que nous sommes confrontés à ce type d'événement. Mais regardez un sujet dont on parle si peu, qui est celui de la désertification et qui est si important. Vous savez que nous avons perdu collectivement 1,8 milliard de terres arables au cours des dernières années. On sait remettre la terre en activité, permettre de lutter contre la désertification, permettant aux gens de rester sur place, de stocker le carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. On ne le fait pas. Pourtant, ce serait un coût pour récupérer. Madame Barbu disait que pour récupérer 300 millions d'hectares, je crois, c'est quelque chose comme 40 ou 50 milliards. C'est tout à fait abordable à l'échelle internationale. On ne le fait pas parce que ça n'intéresse aucune grande entreprise, parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner là-dessus. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais pas forcément là où on les voit le plus souvent.
Dina Ionesco, qui est avec nous également par téléphone. Bonsoir Dina.
Oui, bonsoir.
Vous avez coécrit avec François Gémen l'Atlas des migrations environnementales publié chez Sciences Po Les Presses, qui est un ouvrage extrêmement utile parce qu'on voit effectivement bouger les populations. J'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce que les stratégies d'adaptation commencent? Est-ce qu'on pense à ces fameux départs anticipés? Ou est-ce qu'on n'en est pas encore là parce qu'on ne voit pas cette migration aujourd'hui?
Alors moi, mon analyse, c'est vraiment qu'on est passé d'une invisibilité totale des questions migratoires en lien à l'environnement et au changement climatique à beaucoup de lumière et intérêt là-dessus. Ça ne veut pas dire nécessairement action, mais il y a une vraie prise de conscience qui n'existait absolument pas il y a 5 ans. Les migrants environnementaux étaient totalement invisibles. Par contre, si je peux, je voudrais aussi vraiment attirer l'attention sur la précision qu'on doit avoir dans ce débat quant aux termes et aux chiffres. Par exemple, le chiffre qui est beaucoup cité de 26 millions de personnes ayant bougé en 2016 en lien à l'environnement, eh bien ce chiffre est quand même extrêmement précis. C'est un chiffre qui ne porte surtout que sur le déplacement interne, donc à l'intérieur des frontières. Et c'est aussi un chiffre, des 26 millions sont liés vraiment à des catastrophes soudaines, donc par exemple des tempêtes, mais aussi les séismes, aussi les inondations. Donc c'est un chiffre extrêmement particulier. Il faut se rendre compte.
Ce que ça veut dire, ce que vous nous dites, Madame Ionesco, c'est que c'est encore pire, en fait, quand on a des situations qui perdurent, comme des inondations perpétuelles, etc., qui font que les gens finissent par bouger, mais qui ne répondent pas à une catastrophe précise à un moment précis, en fait.
En fait, il y a ces catastrophes à répétition qui, malheureusement, arrivent chaque année et souvent aux mêmes endroits. Mais par contre, ce que ces chiffres ne disent pas, c'est qu'il y a à côté des millions de personnes qui subissent la désertification, la perte des terres, la salinisation des terres, la perte des écosystèmes, qui subissent de plein fouet les températures qui grimpent. Donc tous ces gens ne sont même pas contenus dans les chiffres que nous mettons en valeur. Donc bien sûr, 26 millions, c'est énorme. En tant qu'individu, quand vous y pensez, et toute leur famille et tout ce qui est lié à ces gens. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne parle que d'une partie d'un phénomène bien plus massif. Et donc c'est pour ça aussi que j'attire l'attention aussi sur les termes que nous employons. Donc l'Atlas porte le nom de l'Atlas des migrations environnementales expressément. Donc nous n'utilisons pas le terme de réfugiés climatiques parce que ces gens souvent vont bouger à l'intérieur de leurs frontières. Donc, ils n'ont pas le droit à un statut de réfugié et ils sont sous la responsabilité de leur État d'origine, toujours. Ils bougent à l'intérieur, l'État en est responsable.
Dina Ionesco,
ils ne peuvent pas avoir ce statut-là. Donc, ça pose la question, qui sont-ils ?
Restez avec nous parce que j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire, mais je vois que vous voulez réagir, Corinne Lepage, je vous en prie.
Oui, mais ce que dit Mme Ionesco est très important. Tout à l'heure, je faisais la distinction entre les migrations internes et externes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il va bien falloir, sur le plan international, qu'on arrive à un statut des réfugiés, climatique. C'est une évidence. Je me bats aujourd'hui beaucoup pour que soit reconnue une déclaration universelle des droits de l'humanité. Ben, dans cette déclaration universelle des droits et des devoirs, parce qu'il y a autant de droits que de devoirs, 6 et 6, il y a un paragraphe sur la question de l'accueil des réfugiés climatiques, parce que ça devient une question de première urgence.
Dina Ionesco, une dernière chose par rapport à ce que vous disiez à l'instant, et moi qui m'intrigue, il faut mettre les mots sur les choses. Quand on doit bouger et qu'on est obligé de même quitter le territoire de son propre pays, ça veut dire qu'on va dans un autre, que ça rend les choses compliquées. Est-ce que ces mouvements de population dus au climat sont facteurs de guerre ou au moins attisent les conflits ? Est-ce qu'on peut déjà le dire aujourd'hui ?
Alors, les questions environnementales sont toujours souvent cachées en fait dans plein d'autres facteurs, les facteurs de conflit ou les facteurs aussi économiques. On dit qu'on a perdu son boulot quand en fait c'est l'impact du changement climatique qui fait qu'on n'a plus de travail. Mais par contre, si je peux quand même amener une petite note d'optimisme dans tout cela, c'est que il y a quand même un éventail très important de solutions et que beaucoup de ces solutions sont en cours de réflexion et de mise en œuvre. Donc, par exemple, dans mon travail ici à l'Organisation internationale pour les migrations, on voit ce type de solution. Il s'agit d'aider peut-être les gens à ne pas partir, donc investir dans la terre, comme Madame Lepage l'a mentionné, c'est extrêmement important. Mais ça peut être aussi aider des migrants qui reviennent dans leur pays d'origine, comme nous allons essayer de faire cela au Sénégal, et on est en train de travailler aussi en Niger là-dessus. Les aider à revenir dans leur pays d'origine avec une activité qui, justement, est liée à l'environnement et au développement local. Donc, il y a énormément de possibilités. Il y a une nouvelle réflexion qui se fait aussi au niveau des politiques migratoires pour prévenir et pas se retrouver juste avec des personnes en situation de détresse et qui ont besoin d'un statut de réfugié. Finalement, on peut prévenir et avoir une mobilité beaucoup plus fluide et mettre en œuvre des pratiques migratoires plus ouvertes.
Et merci pour cette note optimiste, Dina Ionesco. On y croit vraiment. Corinne Lepage, justement, quitte à être optimiste, alors vous allez peut-être me dire naïve, à risque mondial, gouvernance mondiale, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un fonds fourni par les pays riches, par l'ONU, je ne sais pas, qui repère...
C'est tout le débat, vous savez, autour du fonds vert, qu'on n'est même pas fichu capable... depuis Copenhague, de mettre en place. On l'avait mis à 100 milliards. À Paris, on a dit qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus. Pays du Sud dit que c'est entre 300 et 400 milliards. Ça paraît des sommes astronomiques, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça quand on regarde les sommes à l'échelle du monde. Mais je voudrais juste rajouter un petit mot. Nous, les Français, on est un des seuls pays industriels à avoir une forêt tropicale en Guyane, et à avoir des territoires qui sont soumis aux risques climatiques majeurs avec les Antilles. Ben, je pense que nous qui aimons tellement être exemplaires, ce serait formidable qu'on soit un peu des moteurs dans le monde sur la manière de s'adapter au changement climatique dans ces zones-là et exemplaire dans la protection de notre forêt. C'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas, mais le message est lancé. Corinne Lepage, merci beaucoup. Ne partez pas, puisqu'on va parler de pétrole à Helsinki et qu'on vous a sous la main. On sera ravis d'avoir vos réactions. Puis on vous retrouvera aussi tout à l'heure, tiens, dans le téléphone sonne. Dina Ionesco était au téléphone avec nous et on vous remercie mille fois aussi. Atlas que vous avez coécrit des migrations environnementales chez Sciences Po Les Presses.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Suite d'un jour dans le monde. On parlera donc d'Helsinki, je vous l'ai dit, à suivre aussi Brexit. Saison 2, l'actu en série, c'est vous, Antoine Gignot, à Londres, avec des étudiants et chercheurs inquiets, Antoine.
6500 scientifiques, qui travaillent grâce aux aides européennes et qui, avec le Brexit, pourraient se retrouver totalement démunis.
Et à tout de suite, Alexandra Hakoun, un avant-goût, juste le fake news de la semaine.
Dans le sillage d'Irma.
Et à tout de suite, pour rester dans l'arc Caraïbe, tiens, nous allons à Haïti, épargné fort heureusement par Irma, avec Mélissa Lavaux.
Me bégayer, aïe,
qui bagage j'aime répéter. Quand on coule l'eau, vous qu'est chemin pour fête. Tant qu'on dit caillou, ou qu'est raison fait nos têtes. Ou qu'est toute qualité, trésor, papier ou. Qu'on est, ça ou gagne, ça ou gagne, si ou gagne en grand maître, c'est lui ou qu'a coûté. Si ou paraît, mais si elle a, c'est qu'on peut écouter, écoutez bien, les papas, les femmes.
Ça s'appelle Coulo, Mélissa Levaux, qui vit au Canada, mais a laissé ses origines haïtiennes donner le ton de sa musique. Power Hit Radio. Magic FM.
Terra de la Tula. Desservi, Prispo. 60 Minutes.
Allez, sous les radars, l'actu internationale que vous n'avez pas vu, mais que Florence Paracolo se rattrape au vol pour vous. Dans Un jour dans le monde, sous les radars, ce soir, Florence, ça commence avec le retour d'un apatride.
Et nous voilà, Fabienne, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Hier après-midi, les cris que vous entendez, ce sont ceux des partisans de Mikhaïl Saakachvili, ancien président géorgien, chassé du pouvoir, devenu citoyen ukrainien et gouverneur d'Odessa, nommé par le président Porochenko avant d'être limogé, privé de sa nouvelle nationalité ukrainienne. Et hier, c'est donc par la force qu'il a passé la frontière et un cordon de soldats ukrainiens accueilli et acclamé par un millier de ses soutiens. Épopée rocambolesque qualifiée d'attaque contre l'État, d'humiliation par le gouvernement ukrainien qui le craint parce que si Saakachvili dit qu'il ne veut pas renverser le président Porochenko mais simplement défendre ses droits et récupérer sa nationalité, il n'empêche qu'il a créé un parti d'opposition, qu'il veut participer aux prochaines élections, qu'il veut lutter contre la corruption et que sa popularité est de plus en plus grande face à un président accusé d'immobilisme au relent soviétique.
Un homme à suivre. Florence, comment va Abdelaziz Bouteflika?
Coussi-coussa, Fabienne, le président algérien, 80 ans, est toujours figé par son AVC de 2013 et les voix se multiplient pour demander sa destitution pour raison de santé. 6 universitaires et intellectuels algériens ont signé une tribune en fin de semaine dernière dans le journal El Watan et le jeune parti d'opposition Gilles Jadid invoque l'article 102 de la Constitution pour mettre fin à cette présidence fantôme. C'est le parti de Djilali Soufiane qui s'est exprimé ce week-end sur son compte Facebook. Il dit qu'aujourd'hui, l'Algérie est en grand danger. Nous sommes sans président et vous savez comment fonctionne le régime algérien. Il donne les pleins pouvoirs à un seul homme qui a les clés de toutes les institutions. Or, le président aujourd'hui n'est plus en possession de ses facultés physiques, intellectuelles, mentales. Il n'a plus la force de diriger l'Algérie. Alors, cette campagne que Djilali Soufiane a lancée s'est propagée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de selfies sur Twitter, de gens qui arborent un t-shirt article 102. Et comme toujours dans ces cas-là, que fait le pouvoir, Fabienne ?
Eh bien, il fait paraître Bouteflika.
Crépitement des flashs dans la salle du Conseil des ministres mercredi dernier. Le président, les yeux fixes, tourne à peine les pages d'un dossier et son premier ministre, Ahmed Ouyahia, balaye le débat sur les capacités du président. Ils n'ont rien à faire d'autre, hein, dit-il, de ce qui agite ce débat. Je peux rassurer les citoyens, leur président, notre président, que Dieu lui prête vie, remplit sa mission et veille sur les intérêts de l'État. Toute cette agitation, si vous me permettez ce proverbe populaire, c'est comme souffler sur de la bouse séchée. Voilà ce qu'il dit le Premier ministre et l'expression est imagée. Elle ne convainc évidemment pas. Si le président se porte vraiment bien, qu'il s'adresse à son peuple, ne serait-ce que 5 minutes, dit l'un des membres d'un autre parti d'opposition, celui de l'ancien Premier ministre Ali Benflis. On peut toujours attendre.
Allez Florence, rien à voir, mais alors vraiment rien à voir. Dans la série Est-ce bien nécessaire, voici un robot japonais prêt à être commercialisé.
Et oui, son petit nom, Fabienne, c'est Anna-chan, une sorte de chien en peluche, animé, doté d'une truffe électronique pour sentir...
Non, je sais ce que vous allez dire.
Et oui, pour sentir vos pieds, parce que les Japonais enlèvent souvent leurs chaussures dans les maisons, au bureau, dans les restaurants, et que les Japonais détestent les odeurs corporelles. Alors, le chien renifle. Si ça sent bon, enfin correctement, il agite les pattes, il s'accroupit, ses réactions vont crescendo jusqu'à la puanteur. Et si ça sent vraiment très mauvais, le chien s'effondre, il tombe latéralement. Tant de technologie et de matière grise pour ça. Ses concepteurs prévoient de le vendre dans les 1000 euros.
Voilà, quand on pense au nombre de paires de chaussettes simples qu'on peut s'acheter pour 1000 euros. Florence, nous voilà édifiés, merci.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes à Helsinki. Et bonsoir à vous, Grégory Tervel.
Bonsoir.
Grégory, on vote ce lundi en Norvège, donc aujourd'hui, élection législative, on vote notamment autour d'une question passionnante. Et si la Norvège renonçait à sa manne financière, à ce qui a fait sa fortune au nom de l'environnement, si la Norvège renonçait au pétrole? Alors c'est pas gagné, mais la question, comme un pavé dans un puits de pétrole, a été lancée par les Verts. Elle a bien agité le débat. On écoute votre reportage, Grégory. On se retrouve juste après.
Le balai des hélicoptères transportant les ouvriers du pétrole du continent vers les plateformes en mer fait partie de l'identité norvégienne depuis 50 ans. C'est grâce aux hydrocarbures et à l'excellente gestion de leurs revenus que la Norvège est devenue le pays le plus riche d'Europe. Le pays de 5 millions d'habitants possède ainsi le plus gros fonds souverain au monde, environ 800 milliards d'euros. Une fortune qui augmente tous les jours, mais qui est réservée pour les générations futures de l'après-pétrole. C'est dans ce contexte privilégié que le parti écologiste débarque pour réclamer ni plus ni moins que la sortie de cette industrie très émettrice en gaz à effet de serre, son secrétaire Lars Gaupset.
Dans d'autres pays, la transition vers les énergies renouvelables se fait très rapidement. Et nous craignons que la Norvège prenne du retard à cause de sa dépendance économique au secteur du pétrole. Nous nous réclamons un plan de sortie progressive du pétrole sur 15 ans, tout en investissant et en créant des emplois dans les énergies renouvelables pour les personnes qui aujourd'hui travaillent dans le pétrole. La Norvège a signé les accords de Paris. Or, nous savons que nous avons déjà découvert plus de pétrole que ce qu'on pourra exploiter si on veut réussir notre objectif de réduction d'émissions. Donc, on ne comprend vraiment pas pourquoi on devrait rechercher encore plus de pétrole.
Et c'est une forme de paradoxe, la Norvège a les moyens de sortir du pétrole grâce justement à sa fortune pétrolière, expliquent les Verts.
Nous pensons que c'est justement parce que la Norvège est devenue riche grâce au pétrole que nous avons une responsabilité morale supplémentaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Et notre histoire nous donne des possibilités que d'autres pays n'ont pas. Nous avons des connaissances, des compétences et des moyens financiers.
Alors évidemment, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. En Norvège, les trois plus grands partis politiques du pays sont contre une sortie rapide du pétrole. D'abord parce que le secteur reste, malgré la chute des cours, le plus important de l'économie norvégienne, avec 200 000 emplois à la clé. Pour Tony Christian Tiller, le conseiller énergie et climat du parti conservateur au pouvoir ces quatre dernières années, ce débat sur la poursuite ou l'arrêt de l'activité pétrolière est beaucoup trop simpliste.
La Norvège doit continuer à développer l'industrie pétrolière dans les décennies à venir, et c'est tout à fait possible de le faire tout en respectant les obligations que nous nous sommes fixées à travers les accords de Paris. Nous prendrons notre part de responsabilité, mais notre contribution la plus déterminante sera peut-être le développement technologique. Nous avons sans doute la politique la plus offensive au monde pour stimuler l'achat de voitures électriques. Nous investissons beaucoup dans le développement des technologies vertes, comme le captage et le stockage du CO2. Nous examinerons dans le futur s'il est techniquement et économiquement possible d'électrifier les nouvelles plateformes pétrolières pour en réduire les émissions. Et puis, il ne faut pas oublier que l'industrie pétrolière norvégienne a les émissions les plus faibles au monde dans le domaine de la production et que le gaz naturel qu'on fournit en abondance et de manière stable aux pays européens participe à l'abandon ailleurs, en Europe, des centrales à charbon qui sont autrement plus émettrices de gaz à effet de serre. Donc, tout cela est relatif et plus compliqué qu'il n'y paraît.
C'était vendredi dernier, lors de l'ultime grand débat de la campagne, les 9 leaders de parti ont longuement discuté du réchauffement climatique, qui a été l'un des thèmes majeurs de cette période préélectorale. La Norvège s'est toujours perçue comme une société respectueuse de la nature, l'environnement a toujours eu sa place dans le débat politique, mais c'est la première fois cette année qu'on discute directement du lien entre l'activité pétrolière du pays et la lutte contre les changements climatiques. Borlan est chercheur au Centre de recherche pour le climat à Oslo.
Dans l'image que la Norvège a d'elle-même, il a toujours été difficile de composer avec ce grand écart entre la question environnementale et celle du pétrole. La Norvège a beaucoup poussé pour un régime de régulation internationale du climat basé sur l'échange de quotas climatiques. C'était pratique, ça nous permettait d'afficher des objectifs climatiques assez ambitieux, tout en évitant de réduire nos propres émissions, parce qu'on pouvait financer des réductions d'émissions ailleurs dans le monde afin de remplir ces objectifs. Donc ce n'est pas un hasard si les questions du climat et du pétrole ont été jusqu'à présent traitées séparément dans le débat politique norvégien. Les autorités ont longtemps travaillé dans ce sens. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il est de plus en plus compliqué de ne pas relier ces deux questions, parce que les connaissances sur le climat ont progressé, les objectifs internationaux ont été clarifiés, donc on sait maintenant qu'on ne pourra exploiter qu'une petite quantité d'hydrocarbures à l'avenir si l'on veut remplir les objectifs climatiques. Les Norvégiens réalisent de plus en plus que l'exploitation pétrolière est la question principale dans la lutte contre les changements climatiques.
Dans un récent sondage, un Norvégien sur deux se disait prêt à laisser une partie des hydrocarbures au fond de la mer afin de limiter les émissions de CO2 du pays. Cela dit, les différents partis qui réclament une sortie assez rapide du pétrole ne seront pas majoritaires dans les urnes aujourd'hui, mais le parti écologiste, le plus radical sur cette question, pourrait dépasser la barre magique des 4%, celle qui permet une entrée en nombre au Parlement et peut-être même de faire pencher la majorité d'un côté ou de l'autre.
Grégory Tervel, merci beaucoup Corinne Lepage, puisque vous avez eu la gentillesse de rester avec nous. J'ai quand même envie d'être optimiste, chiche. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle qu'on commence à penser en tout cas à l'âge du post-pétrole dans un pays qui fait tout son beurre dessus?
Je dirais que c'est formidable parce que d'abord ce pays, je le trouve épatant d'avoir créé ce fonds en disant nous, on exploite le pétrole mais on met tout l'argent de côté pour les générations futures. Je vous assure que si dans le monde entier, tous les pays avaient raisonné comme ça, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Et ce fonds aujourd'hui gère de manière socialement et environnementalement très responsable ses investissements. Deux, lui, ça lui coûte cher. Mm-hmm. Je veux dire, par là, nous, notre projet de loi, c'est très bien sur l'arrêt des
symboliquement, c'est très bien, mais nous, on produit quasiment rien. Ben,
on produit rien, ouais. Alors ça ne nous coûte pas très cher. Et en plus, on va continuer quand même pendant 30 ans. Eux, c'est le centre névralgique de leur activité économique. Donc, d'entendre même des partis de droite, enfin conservateurs, dire qu'ils sont d'accord pour réduire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'il faudra qu'on en passe par là. Et donc, je trouve ça très, très encourageant.
Juste en un mot, je vous ai vu sourire quand on parlait, j'ai presque envie de dire, d'extraction propre, d'électrifier les plateformes. Ça, c'est des doux rêves, ça n'existe pas.
Vous savez, de l'extraction propre d'un produit qui n'est pas... c'est mieux. C'est mieux, vous savez, ça me faisait penser à EDF, quand ils veulent faire de l'environnement, ils peignent leur pylône en vert parce que c'est moins vilain. Bon, c'est un peu pareil.
Voilà, en tout cas, on n'en est pas là pour l'instant. On verra ce que disent les élections, on verra ce que disent les Verts donc dans ce débat norvégien. Corinne Lepage, merci beaucoup, vous reviendrez
merci.
Tout à l'heure pour le téléphone sonne. À tout de suite. No one here. Ça s'appelle Call the Police, LCD Sound System.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Synthèse.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
L'actu en série Brexit, saison 2, les plis et les faux plis de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Le lundi, c'est vous, Antoine Gignot, depuis Londres. Et ce soir, Antoine, le Parlement doit valider ce qu'on appelle le Great Repeal Bill. C'est un texte qui doit permettre d'incorporer tous les règlements européens dans le droit britannique avant de les modifier.
Et c'est un débat qui va durer jusque très tard dans la nuit, car le texte donne aussi l'autorisation au gouvernement de Theresa May la possibilité de modifier n'importe quelle loi sans passer par le Parlement, une sorte en fait de 49-3 amélioré. Du coup, les travaillistes, les écossais, les libéraux démocrates crient au scandale. Ils craignent que les conservateurs en profitent pour modifier le droit du travail et les normes environnementales. Débat houleux donc ici ce soir en perspective.
Le droit du travail, ça nous dit quelque chose ici. Et pendant qu'on s'empoigne au Parlement, Antoine, les universitaires sont dans la rue.
Ils ont manifesté ce week-end contre le Brexit parce que pour les scientifiques, pour les chercheurs, le Brexit, c'est la plus grosse catastrophe qui pouvait arriver. Les Britanniques font partie des plus grands bénéficiaires du Fonds de recherche européen. Ils reçoivent de Bruxelles beaucoup plus d'argent qu'ils n'en donnent. Pour vous donner un exemple, entre 2007 et 2013, le Royaume-Uni a versé 5,5 milliards d'euros à titre de participation au budget de la recherche européenne et il a reçu en échange une enveloppe de près de 9 milliards d'euros, pas loin du double. Le programme européen soutient au total le travail de près de 6500 scientifiques britanniques pour Rosanna Dawcett, qui s'occupe des demandes de bourses des chercheurs et des partenariats européens à l'université du Sussex. Les subventions représentent 20% du budget annuel.
C'est très très grave. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, des subventions, mais aussi la coopération que nous avons avec tous les laboratoires et l'échange de chercheurs. En ce moment, nous pouvons faire des échanges librement, l'échange d'idées et partager la propriété intellectuelle pour aider la technologie en Europe et l'économie. D'habitude, les universités britanniques sont un partenaire cherché, disons, mais maintenant on a vu une diminution des demandes pour être partenaire, je dirais environ 30% depuis le référendum. C'est beaucoup, c'est très inquiétant.
Inquiétude donc, Antoine, on l'a bien compris. Et pourtant, le gouvernement britannique a promis de conserver au maximum les programmes de recherche.
Oui, David Davis, le ministre du Brexit, l'a dit. Il l'a même écrit dans des documents d'orientation. Il y a d'ailleurs des pays comme la Suisse, la Norvège, qui font partie des programmes européens sans faire partie de l'Europe. Le problème, c'est que ces pays-là autorisent la libre circulation des travailleurs et que le Royaume-Uni, à l'inverse, vient d'annoncer qu'il fermerait ses frontières dès le mois de mars 2019, ce qui pourrait donc interrompre des dizaines de partenariats comme Galiléo et Copernicus, les programmes spatiaux. C'est ce que dit Beau Fowler, il est professeur d'université, écrivain et passionné d'astronomie.
Pour l'agence spatiale européenne, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va continuer d'en faire partie? Est-ce que les récents astronautes qu'on a eus dans ce pays auront été les derniers? Tout ça parce qu'on sera hors de l'agence spatiale. C'est invraisemblable qu'on en soit rendu au point où on en est maintenant. C'est choquant. Ensemble, on peut faire des choses extraordinaires, mais tout seul, on est juste insignifiant et l'esprit étroit. Moi, j'ai des étudiants qui sont inquiets parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rester dans le système scolaire de ce pays.
Et cette question, Antoine, des étudiants, elle est évidemment, elle aussi, centrale.
Oui, parce que dans les 24 universités comme Oxford et Cambridge qui font partie du Russell Group, le nombre de dossiers de candidature a déjà diminué. Ce qui veut dire que les frais d'inscription, eux aussi, vont diminuer, parfois de près d'un tiers. Et les lycéens britanniques, eux-mêmes, ne sont pas sûrs de rester étudier ici s'ils sont coupés du monde. James McGorry, le directeur du mouvement Open Britain, qui milite pour rester au sein d'un réseau européen, conclut ces derniers jours, le gouvernement va maintenant devoir faire autre chose que de croiser les doigts et d'attendre.
Antoine Gignot qui feuilletonne le Brexit dans Un jour dans le monde. À très vite.
France Inter. Un jour dans le monde.
Alexandra Akoun, bonsoir.
Bonsoir.
Re-même. Planète Monde, ce qui buzz, ce qui fait réfléchir ou lever un sourcil dans la presse et les médias du monde. On commence comme tous les lundis par le fake news de la semaine. Il nous ramène à Irma, mais en Floride.
Et avec au top des infos farfelues, cette capture d'écran télé qui a circulé ce week-end sur Twitter, une sorte de photo satellite d'un grand siphon de nuages blancs avec ce bandeau. Breaking news, Irma transporte désormais des requins. Alors là, on se dit, ça y est, on est vraiment dans Sharknado.
savez, Sharknado, hein, Fabienne, ce téléfilm américain.
Mais en fait, non,
bien
je ne sais
que...
pas.
Je ne sais pas. Alors là, il faut absolument voir ça. En tout cas, les amateurs de série Z en raffolent. Dans Sharknado, eh bien, on a une tornade venue du Mexique qui fait littéralement pleuvoir des requins sur les habitants de Los Angeles. La photo de ce week-end était bien sûr un vulgaire montage mis en ligne par des petits rigolos.
Voilà, Anthony Bélanger est d'accord avec vous. Vous avez bien, vous savez ce que c'est, Sharknado.
Oui, tout à fait. C'est oui. Ça. Bon, Los Angeles, c'est... New York, et il y a même deux.
Oui, il y a une suite. Il y en a 3-4.
Très bien. Alors, autant pour moi. Plus embêtante en revanche, cette vidéo postée hier par le directeur des réseaux sociaux de la Maison Blanche. Il s'appelle Dan Scavino.
Une vidéo censée montrer l'étendue des dégâts, la montée des eaux sur l'aéroport international de Miami. Immédiatement, les autorités aéroportuaires de Floride ont démenti et l'origine de la vidéo a été retrouvée. Une inondation de l'aéroport de Mexico en août dernier.
Pas pareil.
Du coup, hein, bah, absolument pas. Hein. Dan Scavino a supprimé son tweet. Mais pour celui qui chaque jour accuse CNN, le New York Times et autres médias de faire circuler de fausses informations, l'incident est tout de même embarrassant. L'ancien caddie de golf de Donald Trump s'est justifié en expliquant que la vidéo était parmi les centaines qu'il reçoit quotidiennement à propos d'Irma. Autrement dit, pas le temps de tout vérifier.
Si on ne parlait pas d'ouragan, on parlerait d'arroseur arrosé. En Turquie, une nouvelle audience du procès de Cumhuriyet a lieu ce matin.
Cumhuriyet, c'est le grand quotidien turc d'opposition. Des mois que le président Erdogan tente de l'étouffer. 17 de ses dirigeants, journalistes et autres collaborateurs étaient ce matin devant le tribunal de Silivri, à une heure d'Istanbul, poursuivis pour propagande d'organisation terroriste. Un procès absurde, dénonce Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Il était à l'audience.
C'est assez fascinant de voir un président de cour qui, toute la matinée, interroge les journalistes sur la manière dont on conduit une rédaction, dont ça se passe quand on apporte un article. On est très très loin du terrorisme. Vraiment, ce qui saute aux yeux, c'est à quel point ce dossier est vide. Ce qu'on vise, c'est de soumettre ce journal, peu à peu de le réduire au silence, et l'ayant réduit au silence, de pouvoir encore plus facilement réduire ce qu'il reste de presse indépendante dans ce pays, au silence.
Et les 17 prévenus risquent jusqu'à 43 ans de prison.
Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Et ça, c'est Narcos, la série de Netflix sur le célèbre parrain de la drogue, Pablo Escobar. Un succès planétaire. Sauf que les Colombiens, eux, ils en peuvent plus.
Alors que la troisième saison vient d'arriver sur la plateforme de streaming, les Colombiens, effectivement, osent le dire, plein le nez, ras la moustache, que leur pays soit associé à la drogue et à la violence, et qu'on les ramène une fois de plus aux années 80 où la Colombie était en proie aux barons de la cocaïne et politiciens véreux. Reportage de l'agence France Presse dans les rues de Medellín, la ville natale d'Escobar. De passage à Paris en fin de semaine dernière, le fils du narcotrafiquant le plus célèbre de la planète, Juan Pablo Escobar, en a rajouté une couche. Narcos est néfaste, a-t-il confié à l'Express. Bonne nouvelle pour les comédiens, pour les Colombiens en tout cas, pas les comédiens. La saison 4 hein, de la série se passera au Mexique.
Alexandra Acoun, merci beaucoup. Il est 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
En Égypte, ce soir, les derniers chiffres du tourisme, Anthony, montrent une nette amélioration. Est-ce qu'on peut dire que le pays va mieux ou pas?
Eh bien, vous savez, c'est toujours le problème avec les chiffres. D'un côté, ben, vous avez raison, hein, les 7 premiers mois de l'année, les revenus du tourisme en Égypte ont augmenté de 170% par rapport à l'année dernière. Impressionnant. Mais de l'autre, ces revenus sont encore 3 fois inférieurs à ce qu'ils étaient avant 2011, c'est-à-dire avant la révolution du 25 janvier, vous savez ce qu'on a appelé le printemps arabe.
Oui,
or, le tourisme est vital pour le pays. Il employait à la grande époque près de 800 000 personnes, surtout des jeunes diplômés d'ailleurs, qui trouvaient un moyen assez efficace de s'insérer dans une économie par ailleurs très archaïque, des jeunes qui souvent n'ont plus qu'une seule solution, l'exil vers l'Europe, le Canada ou les États-Unis. Un chiffre, un seul, permet de mesurer cet exode. L'argent envoyé par les Égyptiens de l'étranger a augmenté de moitié d'une année sur l'autre, c'est énorme.
La situation sécuritaire est, en plus, Anthony, très loin d'être réglée.
Voilà, alors ça c'est un vrai échec du régime policier et militaire d'Al-Sissi. En renversant le président élu Mohamed Morsi, les militaires promettaient le retour de l'ordre. Et puis depuis 3 ans, le régime est en proie à une insurrection virulente, et ce dans le Sinaï. Les experts parlent d'un attentat ou d'une embuscade par jour. Pas plus tard qu'aujourd'hui, 18 soldats sont morts, tués par des bombes posées par des insurgés, vous savez, qui se réclament de l'État islamique. En réponse, eh bien la répression est brutale, et pas seulement dans le Sinaï. On estime à écoutez bien, 60 000, le nombre de prisonniers politiques. Personne n'est à l'abri, et surtout pas les intellectuels, journalistes, militants des droits de l'homme, qui avaient pourtant cru dans le retour de l'armée au pouvoir.
Et on se demande un peu comment le pays tient encore, quand même.
Et ben, si vous ajoutez une inflation annuelle de 30%, une chute de la livre égyptienne de près de 50% en 3 ans, qui renchérit le prix des produits importés, or en Égypte, on importe tout, et un chômage endémique, la question se pose effectivement crûment. Et si l'Égypte tient encore, eh bien c'est parce qu'en sous-main, le monde entier, mais surtout l'Arabie Saoudite, paye pour ne pas avoir voir le pays s'effondrer. C'est l'épisode de Printemps arabe, puis Frères musulmans au pouvoir, a tétanisé Riyad. Alors plutôt que de revivre à ses frontières un pareil cauchemar, l'Arabie Saoudite paye, comme toujours d'ailleurs, de très très gros chèques, à commencer par 20 milliards de dollars, pas moins, signé en avril 2016 par le roi Salman. Alors avec cet argent, l'Égypte s'est acheté des armes, a financé l'élargissement du canal de Suez, espère encore construire dans le désert une nouvelle capitale, des différences absolument très peu productives, voire inutiles, mais tellement prestigieuses.
Et en échange alors, les Saoudiens ont obtenu quoi?
Eh bien en échange, les Égyptiens ont dû offrir sur un plateau d'argent aux Saoudiens deux îles inhabitées, mais stratégiques, Tiran et Sanafir. En clair, Al-Sisi a cédé un bout du territoire national. C'est une vraie humiliation nationale là-bas. Alors on atteint là vraiment les limites du régime d'Al-Sisi. Promettre l'ordre et en fait gérer une insurrection. Promettre un mieux économique et en fait gérer la pénurie. Promettre le retour de la fierté nationale et en fait vendre son âme aux Saoudiens.
Anthony Bélanger dans Un jour dans le monde. Le 18-20 continue dans un instant. Sébastien Paour est là pour le journal de 19h. Et puis le téléphone sonne, on parle reconstruction après Irma. Comment faire? Par où commencer? Faut-il persister dans des territoires qui subissent les assauts des ouragans de plus en plus fréquemment? Comment mieux anticiper? Est-ce que c'est vraiment possible? Les gens assurés pourront repartir, bien sûr, mais les autres? Peut-on rendre un territoire entier totalement armé contre les catastrophes climatiques? 01 45 24 7000 franceinter.fr. Le mot dièse, Telson.